On l'aura compris, l'ambition du monarque Reza Khan sera d'ancrer la Perse dans le XXe siècle et dans la modernité. Le rapprochement avec le régime nazi coûtera cher à Reza Shah Pahlavi. Les alliés prendront comme prétexte cette alliance pour envahir l'Iran, qu'ils quitteront à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1941, le Shah abdique en faveur de son fils Mohammad Reza Shah Pahlavi, connu actuellement comme le Shah d'Iran, puisqu'il est, à l'heure actuelle, le dernier monarque ayant régné sur le pays. Le jeune Mohammad Reza Shah hérite d'une situation particulièrement difficile à gérer. Le nord du pays est en effet occupé par l'URSS et Staline refuse de retirer ses troupes. Le Shah rappelle alors le premier ministre de feu son père, Ahmad Gavan Ozsalaneh. Ce dernier mènera les négociations avec Staline de main de maître et l'URSS finira par évacuer ses troupes. Une autre ingérence étrangère rend difficile la politique du Shah d'Iran. La gestion des ressources pétrolières et les bénéfices de l'or noir ont été accaparés par l'étranger et en particulier par la Grande-Bretagne. Cette situation ne pouvait plus durer. Les élections de 1950 mettent les partis nationalistes au pouvoir et Mohammad Mossadegh fut nommé Premier ministre. Mossadegh propose, en 1951, la nationalisation du pétrole aux grandes dames de l'Angleterre qui jusque-là géraient le pétrole iranien. En 1953, le Shah révoqua Mossadegh. Ce dernier refusa purement et simplement, et ce fut le Shah qui partit en exil. Les États-Unis organisent alors un coup d'État. La situation rétablie, le Shah d'Iran rentre en Iran et Mossadegh est condamné à 3 ans de prison. Malgré quelques réformes structurelles qui visent à moderniser le pays, le régime du Shah devient de plus en plus autocratique et répressif. En mars 1977, débute ce qu'il est convenu d'appeler le printemps de Téhéran. Les manifestations sont durement réprimées par la SAVAK, l'organe chargé des services secrets de l'organisation de la sécurité en Iran. Le 6 octobre 1978, l'ayatollah Khomeini, un des opposants les plus durs au régime, court s'installer en France à Neufle-le-Château. Il reviendra en Iran, accueilli en héros, après que le Shah soit parti en exil le 16 janvier 1979. Les Mollahs, qui rêvent d'un empire islamique, s'emparent alors du pouvoir et décrètent la République islamique d'Iran.
Alors, quand on parle de régime de Shah, de l'ancien régime, il faut savoir qu'à l'époque, non seulement le parti Toudé, tout ce qui était démocrate, tout ce qui était vraiment des gauches, de droite, qui était nationaliste. Alors, le régime de Shah, ils avaient peur de démocrates, même les Américains. Vous savez que ce n'était pas quelqu'un d'agent de la Russie. Il n'était pas de gauche non plus, c'était un nationaliste, c'était quelqu'un qui était démocrate. Alors, il était balayé par les Américains et les Occidentaux parce qu'ils avaient peur de la démocratie, finalement. À l'époque, la démocratie, c'était pas dans leur intérêt. La démocratie pour l'Iran, c'était pas dans l'intérêt des pays occidentaux. Ils pensaient que la démocratie, il va les amener dans le camp de la Russie. Les Occidentaux, ils nous doivent 2 fois la démocratie. Une fois en 1911, parce que la Russie et tous les pays occidentaux, finalement, ils ont joué un rôle négatif dans l'histoire de l'Iran. Et deuxième fois, c'était à l'époque de Mossadegh, quand il y avait une démocratie en Iran qui était tombée sous les menaces et avec l'aide des Américains. Ne parlons pas de 1979. Ça, c'est autre chose.
Que va-t-il advenir de Reza Shah ?
Reza Shah, comme on a parlé, les Iraniens, ils cherchaient toujours un allié contre la Russie et l'Angleterre. Alors, certaines époques, c'était la France. Et comme ils ont vu que ça ne marche pas, donc ils sont allés plutôt vers l'Allemagne qui était en guerre contre conflit contre la Russie et l'Angleterre. Et Reza Shah, donc, il a fait rentrer beaucoup d'experts, beaucoup de militaires. D'ailleurs, même les usines de l'Iran étaient en partie construites par les Allemands, ce qui n'était pas pardonné par les Anglais.
Justement, il a été suspecté de cette alliance avec le régime allemand, quoi, à l'époque, le régime nazi, qui a permis aussi peut-être aux Anglais et à la Russie de rentrer en Iran à ce moment-là.
Nous sommes dans une période où, une fois de plus, si vous voulez, les événements du système international balayent tout le reste. Hein. Bon, 41, c'est qu'en 41, hein, vous vous rendez compte, Stalingrad, etc., que Reza Shah est déplacé. Simplement, moi, ce que je pense peut-être finalement plus intéressant de vous signaler, c'est que depuis Reza Shah, il y a, très visible pour quelqu'un qui visite l'Iran aujourd'hui, une influence allemande en Iran.
La suite va être prise par son fils. Quel sera son règne ?
C'était à sa façon un Iranien qui aimait l'Iran aussi. Ben bon, à sa façon. Bon. Et avec les dérives que pouvait entraîner le fait qu'il était engagé dans une certaine cour, certaines influences, sa famille autour de lui, enfin tout ce qu'on a pu raconter sur Reza Shah. Ceci, je crois que c'était quelqu'un qui voulait la grandeur de l'Iran, peut-être même de façon un peu caricaturale. Sader le dira mieux que moi. Il y a eu, vous le savez, la fameuse reconstitution grandiose de 1971 où il a voulu mettre sa main dans la main de Cyrus. Vous savez, même la chose assez grotesque qu'on raconte, c'est qu'il y avait une espèce de machine qui avait été mise sur place et au moment où il faisait son discours en disant « Sois tranquille, Cyrus, nous sommes là pour te succéder », il y a eu comme le vent a poussé comme un soupir et il paraît que c'était une machine quelconque qui avait produit ce petit phénomène climatique. Je pense qu'on a été très dur, hein, je crois très dur pour lui. Peut-être que les historiens, dans 50 ans, essaieront de rétablir quelque chose de plus équilibré.
Les Ouaras sont parisiens. Ils ont quitté ce matin Téhéran par avion pour un voyage en Amérique qui les conduira au Brésil, en Argentine, au Canada et aux États-Unis. Si les souverains iraniens sont à Paris, ce n'est donc que pour une escale privée de quelques heures. Avant le départ du Shah de Téhéran, plusieurs décisions politiques importantes ont été prises. Un conseil de régence composé du Premier ministre, du ministre de la Cour, des présidents de la Chambre et du Sénat et des princes Gholam Reza et Abder Reza, frère du Shah, assurera la continuité du pouvoir. D'autre part, le Premier ministre a nommé deux vice-premiers ministres, le docteur Farhang Mehr et M. Nasser Asrar. Le Shah et l'impératrice ne regagneront Téhéran que le 27 mai prochain.
Et si on parle de régime de Shah, qu'à l'époque, le régime de Shah, il a balayé toutes les partis politiques, tous les syndicats, toutes les associations qui étaient la société civile iranienne. La seule chose qui restait dans la société, c'était le réseau traditionnel qui était religieux. La plus grave faute qu'ils ont fait, le père et le fils, c'est la rupture de l'histoire de l'Iran. Ils ont coupé l'histoire des générations. Donc les générations, surtout les générations après Mossadegh, et les jeunes, ils ne savaient pas ce qui s'est passé pendant la révolution constitutionnelle. La révolution constitutionnelle, c'est le début de l'histoire moderne de l'Iran. Et souvent, les jeunes iraniens, ils ne savaient rien du tout de cette histoire. Et ils sont référés aux autres événements mondiaux. D'ailleurs, la situation mondiale avait changé à l'époque de Mohammed Reza Shah, car la Russie, ça a devenu Union soviétique. Donc, comme on a parlé, déjà il y avait une influence sur les révolutionnaires iraniens de première génération à l'époque de la révolution constitutionnelle.
Cette influence va se retrouver dans ces années-là avec le Parti communiste iranien ?
Tout à fait. Un parti communiste pro-soviétique et qui a fait beaucoup de... C'est vrai que tous les intellectuels de l'époque, ils allaient vers le Parti communiste de Parti Tudé. Mais c'était eux qui ont changé le but de conflits sociaux. Avant, comme on a dit, c'était la liberté et c'était la modernité pour les Iraniens. Mais par la suite, pour les partis Tudé, surtout pour les dirigeants, il y avait deux camps. Il y avait le camp des impérialistes et Union soviétique qui était représentant de peuples du monde, des ouvriers, de tout ça. Donc tout ce qui était l'intérêt de l'Union soviétique pour eux, c'était la première chose à sauvegarder.
Malgré tout ce qu'avait fait la Russie auparavant.
Parce que si vous voulez, c'était une rupture, comme je vous avais dit. Ce qui est très mauvais par le régime dictatorial, c'est cette rupture historique. Les gens, ils ne savaient pas ce qui s'est passé avant. Ou si on le savait, on ne voyait pas que l'intérêt de l'Union soviétique, finalement, ce qu'ils suivaient en Iran, c'était à peu près la même chose que le 18e siècle par les tsars de la Russie. Et donc, si vous voulez, les forces, par exemple, les mollahs qui, à l'époque de la mouvement constitutionnel, ils étaient à côté de pouvoir politique contre le modernisme et contre le peuple, par les tentatives de parti communiste et de cette pensée de camp, tout ce qui était contre l'Occident, donc c'est bien pour les peuples, tout ça, cette force, ça a redevenu une force populaire et il est, le respect était rétabli par le parti. Finalement, si vous regardez les mots là, après, ils ont pris tous les slogans de Parti Today.
La culture iranienne et la culture française sont essentiellement des cultures humaines. C'est l'homme que partout, dans ce qui est écrit, dans ce qui est pensé, dans ce qui est cherché de part et d'autre, c'est l'homme qui est toujours l'objet principal de notre effort, de l'effort de nos esprits.
Pour une fois, je m'écarte de Sader. Il vient de dire que les religieux ont repris au Parti Today des slogans, donc disons, nationalistes en gros. D'accord. Moi, je pense qu'il y a un fil qui court à travers l'histoire de l'Iran au XXe siècle, l'idée du nationalisme. Tout à l'heure, je n'ai pas eu la présence d'esprit de vous dire, quand vous m'avez parlé de Mohamed Reza Shah, mais Mohamed Reza Shah est à l'origine de ce que nous voyons aujourd'hui avec la revendication iranienne pour accéder au nucléaire. Ça vient directement de Mohamed Reza Shah. C'est pour ça que je vous disais. Alors, Mohamed Reza Shah, si vous voulez, il a une ligne vacillante. C'est-à-dire que tantôt, il stigmatise, par exemple, les religieux. Il parle, je crois, il y a une phrase célèbre de Mohamed Reza Shah. Il dit l'impérialisme, ou plutôt non, la camarilla noire, il emploie le mot noir, un peu comme nos anticléricaux, si vous voulez, en Europe. La camarilla noire, parce qu'effectivement, la robe des ayatollahs ou des mollahs est noire. Bon. Et puis, comme il faut aussi qu'il s'oppose aux communistes, au Parti Today, dont vient de vous parler tout à fait, alors là, je suis tout à fait d'accord avec Sader, alors là, il cultive aussi les mollahs. Donc, il a une politique qui est vacillante. On raconte que, par exemple, quand le grand ayatollah Borujerdi a subi une opération dans le grand hôpital de Téhéran, Mohamed Reza Shah se déplace spécialement au chevet de l'ayatollah Borujerdi parce que, vous voyez, il faut à la fois... Bref, est-ce que ça ne vous rappelle pas la politique américaine qui, pour contrer les Russes en Afghanistan, va, comme vous le savez très bien... Allez, flatter nos amis talibans. Vous voyez, tout ça, ça se ressemble de près. Donc, une politique vacillante, une politique qui n'est pas finalement, comment dirais-je, très éclairée. Bon, alors, je crois par contre que ce qu'il y a de certain, ce qu'il faut comprendre, moi je crois, c'est que les religieux ont toujours adopté une ligne nationaliste.
Et le nationalisme, vous savez, c'est une idée des intellectuels de mouvements constitutionnels. Eux, ils voulaient une nation. Les religieux, ils voulaient l'Oumma. Ils ne connaissaient pas des frontières. D'ailleurs, même les grands mollahs de l'époque, Assad Abadi et compagnie, ils voulaient toujours un pan-islamisme. Et même si vous regardez maintenant les religieux d'aujourd'hui, les religieux qui sont actifs en politique, les religieux qui sont dans leur...
Ça, vous voulez dire qu'on en oublie parfois que l'islamisme est tout aussi impérialiste que les autres?
Bon, en tout cas, impérialisme ou autre, c'est quelque chose qui ne connaît pas le nationalisme. Et d'ailleurs, un des slogans phares des mollahs pendant tout le temps, c'est-à-dire que le nationalisme, c'est quelque chose créé par impérialisme. Et même si vous voyez maintenant, et bien évidemment, chaque fois qu'ils ont besoin de mobiliser le peuple et tout ça, ils parlent de nationalisme, mais finalement, ce qu'ils cherchent, ils disent, c'est pour une civilisation islamique.
Le président Khamenei a d'entrée de jeu averti les Américains que l'attaque contre un navire iranien aurait de graves conséquences qui ne seraient pas limitées au seul golfe Persique. La délégation américaine a aussitôt quitté la salle. Pendant ce discours, d'une rare violence, les Irakiens, les Koweïtiens et l'Arabie Saoudite ont adopté la politique de la chaise vide. Alors que le président iranien refaisait l'histoire de la révolution islamique de 1979, des manifestants pro- et anti-Khomeini protestaient à l'extérieur immédiat du palais des Nations Unies. Les pros dénonçaient l'agression irakienne sur le sol iranien, les anti-Khomeini dénonçaient, eux, les tortures et les violations systématiques des droits de l'homme en Iran. À l'intérieur, Ali Khamenei, imperturbablement, continuait, lui, à nommer les puissances liguées à son avis contre l'Iran, les États-Unis, le sionisme et la France, accusées d'abriter des terroristes iraniens.
Jamais, sans doute, l'Assemblée générale des Nations unies n'avait entendu discours aussi dur. En effet, pendant plus d'une heure, le président iranien a accusé les grandes puissances, les États-Unis et le Conseil de sécurité de collusion avec l'Irak. Il ne peut pas y avoir de paix, a-t-il dit, avec ce pays tant qu'il n'aura pas été vaincu militairement et dénoncé comme l'agresseur. Et le président Khamenei a conclu par ces mots « Dieu est avec nous et il ne peut pas y avoir de défaite pour ceux qui combattent sous sa bannière ».
On a reproché à certains intellectuels français à l'époque d'avoir soutenu justement l'ayatollah Khomeini. On a vu Michel Foucault dans les Corriere de la Sera vanter les mérites de l'ayatollah Khomeini. Soit c'était par un tiers-mondisme exacerbé ou est-ce que c'était guidé par un anti-impérialisme soutenu et aveugle?
Je pourrais vous commencer par vous dire, on a l'exemple d'aveuglement d'intellectuels tout aussi considérables que Foucault. Je pense par exemple à Jean-Paul Sartre. Donc on pourrait se libérer comme ça de la question en disant, ben, c'est une fois de plus un intellectuel qui s'aveugle. Mais je vous suis, hein. Je pense que dans l'affaire, moi personnellement, je pense que c'est davantage une sorte, ce que j'appellerais, si vous le permettez, d'anti-américanisme primaire qui finit par, en somme, aveugler la vision de l'intellectuel en question. Et au lieu de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière ce mouvement, l'ayatollah, etc., il ne voit qu'une chose. Et on rejoint d'ailleurs, vous voyez, c'est ma ligne persistante, on rejoint la fameuse donnée nationaliste dont je vous parle. Parce que c'est l'ayatollah Khomeini, il apparaît comme quelqu'un qui se positionne contre les Américains. C'est clair, hein, je crois.
Oui, on peut multiplier les exemples. Roger Garaudy, pareil. Hein.
Roger Garaudy, il est allé encore plus loin, lui.
Oui. Pour vous dire que c'est vrai que c'est très important d'analyser et chaque fois le contexte pour prendre la partie. On ne peut pas avoir une idéologie pour juger tous les événements et de prendre le parti comme ça. On se trompe souvent.
On parle, si vous voulez, de choses regrettables. Il y a une chose quand même que j'aimerais dire. Comme vous le savez, je ne dis pas la France, parce que la France là-dedans, mais le gouvernement français a aidé les Irakiens contre les Iraniens. Vous me direz, eh bien bon, on était avec les Irakiens contre les Iraniens. Vous savez quand même ce qu'ont fait les Irakiens dans certaines situations, à certains égards, dans certains territoires, contre les Iraniens. J'avoue que quelquefois, ça ne me plaît pas tellement de penser que ça a été avec des moyens français qu'on a pu faire ça. Je tenais aussi à le dire.